Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut à tous.
De Morren.
Salut tout le monde.
Et d'un revenant, c'est Ben.
Salut à tous.
Il est là, il est parmi nous.
Ça faisait un moment, c'est vrai.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Feldseal. On enchaînera ensuite sur Castlevania Symphony's Destiny. Nous parlerons de World of Final Fantasy, de E-Suite, d'une extension pour The Surge. On évoquera la conférence PlayStation de la Paris Games Week, où il y a eu quand même quelques petites annonces, hein, étonnamment. Nous enchaînerons ensuite sur Call of Duty World War II, à l'époque où on looter des crêtes sur les plages de Normandie, vous verrez, c'est fabuleux. On enchaînera ensuite sur Dauntless, on parlera de Runic Games qui a fermé, et enfin, on terminera avec StarCraft 2, des nouvelles du côté de la BlizzCon qui, soit dit en passant, entre nous, était vraiment pas terrible cette année. Voilà, allez, on va commencer, Ben, avec Feldseal.
Oui, donc Feldseal, un projet Kickstarter qui a déjà été financé, qui est un tactique RPG. Ils demandaient 40 000 dollars et ils en ont eu 45 000, donc ce qui n'est pas énorme, mais ils ont réussi à passer.
Bon, cela dit, ça avait l'air assez avancé quand même.
Ouais, à noter, voilà, justement, comme tu dis, c'est assez avancé parce qu'une démo est déjà disponible. Donc on l'a souvent dit ici, c'est quand même une très bonne chose de proposer une démo quand on lance un Kickstarter. C'est quand même gage d'un certain avancement dans le projet. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Et alors après, voilà, c'est un tactical RPG qui ressemble très fortement à un bon vieux FF Tactics.
Très fortement, c'est un doux euphémisme. Hein. Il y a carrément des menus qui sont pompés sur FF Tactics, quoi. Par exemple, à un moment donné où il doit sélectionner sa classe, vous avez les classes qui apparaissent en cercle autour du perso. Copier-coller FF Tactics. Il y a un moment donné, il fait un move spécial, tu sais, qui bouge le perso d'une case, c'est l'animation de FF Tactics. Vous savez, dans FF Tactics et Tactics Ogre, quand vos persos bougeaient pas, ils marchaient en fait, tu sais, il y a l'animation de marche, ils avaient repris ça, d'ailleurs ça faisait un peu ridicule, je trouvais, comment dire, tu sais, quand t'as des persos super bien dessinés, voir ces persos qui bougent comme ça, ça fait un peu bizarre, quoi, on va dire. Bon, en tout cas, ça ressemble fortement à FF Tactics, donc les gens ne seront pas déstabilisés. Par contre, il y a un truc où le jeu se distingue, et c'est pour ça qu'on en parle cette semaine, c'est la direction artistique. Franchement, je trouve que ça rock du poney. C'est très coloré, c'est très détaillé surtout. Et ce qui m'a étonné, c'est que même avec tous ces détails, ils rajoutent de l'animation dans les décors et tout. Donc franchement, moi, je vous incite à aller voir ça. Ça a l'air vachement cool. Bon, ça fait un peu Madeleine de Proust, quoi. C'est-à-dire que si ça fait un moment que vous n'avez pas fait FF Tactics et que vous aimeriez bien jouer à un jeu de ce type-là, bah ma foi, ça peut être tout à fait sympa.
À noter qu'ils espèrent le sortir pour juillet 2018. Donc bon, voilà, c'est bien pour ça que j'ai dit espère, on sait comment ça se passe.
Voilà, c'est ça, au bout d'un moment, on les connaît, les projets Kickstarter qui annoncent des dates de sortie, hein, voilà.
Mais vous pouvez aller voir la page, il y a quand même beaucoup de détails dessus, donc c'est plutôt intéressant, ouais.
Et puis aller tester la démo, du coup.
Et aussi tester la démo qui est disponible sous Windows, Mac et Linux, à noter quand même, ce qui est une plutôt une bonne chose aussi.
Et il y a aussi le découpage des niveaux qui fait très penser à Tactics Ogre et à FF Tactics.
Puis même, t'as la map monde, c'est FF Tactics en couleur. De toute façon, je pense que c'est totalement assumé, hein, je veux dire. Et puis, on pourrait arguer que déjà, FF Tactics, c'est un copier-coller de Tactics Ogre. Donc à partir de là, hein, de toute façon,
on est plus à ça près.
Voilà.
Et puis de toute façon, c'est joli, donc allez regarder.
Tout à fait. On va enchaîner sur un projet de fans. Et ce projet, c'est Castlevania Symphony's Destiny. Alors, qu'est-ce que c'est Castlevania Symphony's Destiny? C'est un fan de Castlevania, premier du nom, sur NES, qui s'est dit, bah tiens, je vais revisiter Castlevania NES, sauf que je vais le refaire avec le moteur de Doom. Voilà.
Il a pris
le moteur de Doom, il a fait un FPS, mais avec les codes graphiques de Castlevania, quoi. Et franchement, ça a l'air super cool. Pour avoir testé un peu, par contre, je vous préviens tout de suite, on n'a plus l'habitude de ces jeux-là, hein, il faut le dire. Ouais. Quand tu veux regarder en haut et en bas, par exemple, il faut appuyer sur un bouton, tu vois. Donc c'est un peu perturbant quand tu joues au FPS actuel où tu sais il suffit de bouger la souris pour changer l'angle de vue, quoi. Alors je précise au passage que ça tourne avec GZ Doom, qui est un portage moderne du moteur de Doom, parce qu'il faut savoir que le moteur de Doom, le code source était libre et qu'il a eu droit à plusieurs déclinaisons en fait, dont la première était Z Doom. Et qu'il y en a eu plusieurs depuis, et l'une d'entre elles c'est GZ Doom. Et pour l'installer, donc, ce qu'il faudra faire, c'est télécharger GZ Doom. Vous téléchargez ensuite Castlevania Symphony's Destiny. Vous mettez le fichier dans le répertoire de GZ Doom, et là vous lancez Jezadoom et normalement il va détecter Simon's Destiny et le jeu se lancera. Voilà. Alors par contre, avertissement, c'est méga dur.
Oui, ça a pas l'air voilà. simple. Hein. J'ai regardé le deuxième niveau là qui te montre en vidéo. Ça a pas l'air simple du tout. Hein.
C'est old school.
C'est pas à mettre dans toutes les mains, c'est sûr.
De toute façon, Castlevania, ça a jamais été réputé pour sa facilité.
Et puis Doom non plus.
Oui, donc... voilà, ça arrange pas les choses. Ouais.
Au moins, ça reste cohérent avec les deux jeux de l'époque dont ils s'inspirent.
Un petit panaché
voilà.
de difficultés.
Mais par contre, je trouve que, enfin, le concept est juste génial, quoi. Il fallait y penser. Le rendu graphique, ça rend super bien en fait avec justement Castlevania. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le fan a eu l'idée de, tu vois, de faire un truc à la Castlevania en reprenant le moteur de Doom. Et en même temps de pas s'empêcher de mettre des petites notes d'humour dans le jeu quoi.
Ah oui oui.
Ah oui.
Mais par contre, je vois de quoi tu parles. Si le jeu devait sortir un jour, je pense pas qu'il pourrait sortir sur les consoles Nintendo vu qu'il y a des croix partout et que Nintendo ils aiment pas trop ça.
Non mais de toute façon déjà t'as Konami qui leur tomberait dessus. C'est un miracle que le projet soit
ah bah
sorti.
Bah oui mais
ils ont pas dû voir passer à mon avis.
Moi ce qui me fait un peu mal là-dedans c'est que bah je me dis que les prochains Castlevania ça sera obligé. Un jeu de fan, quoi, parce que Konami...
Faudra pas trop compter dessus, à mon avis. Ouais, alors ce sera un génial, jeu sur quoi. Mobile, un jeu de cartes sur mobile, où tu tireras tes cartes en mode gacha.
Ah non, mais ne me parle pas, ne me parle pas de ça.
Ah oui, dernier point, la musique. Non, mais la BO de Castlevania, c'est toujours aussi génial. Surtout que là, il l'a revisité un peu en mode on met de la gratte derrière et tout, et ça défonce. C'est quand tu réécoutes la BO revisitée que tu dis, mais putain, mais c'était tellement bon pour de la NES déjà à l'époque. Et là, il te revisite ça derrière et c'est juste fabuleux.
Bah, rien que le thème du fameux Vampire Killer, il est juste mythique, ouais. quoi. Enfin, on connaît tous le thème de Mario, de Zelda et tout ça. Mais Castlevania, c'est quand même un des rares thèmes hors Nintendo ou bien hors grande licence comme ça qui... arrive à être reconnaissable aux premières notes, quoi.
C'est ça. On va enchaîner sur la suite et on va évoquer World of Final Fantasy qui va débarquer sur PC le 21 novembre. Un portage Square Enix dont j'espère, n'est-ce pas, que... comment dire... cette fois, il bénéficiera d'un suivi parce que je rappelle notamment que Nier Automata n'a toujours pas bénéficié de patch sur PC et qui se repose un peu, par exemple, sur les fans pour que... ils corrigent eux-mêmes le jeu, hein, ce qui est un peu discutable, n'est-ce pas?
Parce que Nier Automata avait besoin d'être patché.
Ah oui, oui, il avait très besoin d'être patché, d'accord. Oui. Le jeu est pas sorti propre du tout. Okay. Et justement, on en avait parlé à l'époque, c'est un fan, un peu en mode Durant, je me rappelle plus comment il s'appelait, celui-là par contre, qui avait corrigé la plupart des problèmes du jeu, mais il y a encore des problèmes qui subsistent.
Ah ouais.
Et Square Enix, t'as l'impression qu'ils s'en foutent totalement, donc voilà. Par contre, je voulais me tourner vers Ben, parce qu'il se trouve que toi, t'y as joué.
Oui.
World of Final Fantasy. Donc, est-ce que tu penses que ça vaut le coup?
Pas du tout.
Ah.
Ok.
Non, typiquement, le jeu est sympathique sans être excellent, mais c'est un jeu mobile par excellence, quoi. Moi, je l'ai fait sur PS Vita. Ça pourrait être très bien un jeu qui soit sur téléphone portable aussi. Le jeu est pas exceptionnel, mais il est réussi dans le sens où, voilà, il s'adapte parfaitement à faire des petites sessions de jeu sur une console portable, sur un téléphone, sur des choses comme ça. Après.
Ah, donc tu penses que le support n'est pas adapté,
ouais,
à
je pense vraiment
quoi.
Que sur PC, si tu passes par exemple 2 heures à y jouer dessus, d'affilée, tu vas t'ennuyer. Parce que c'est quand même assez répétitif. Après, voilà, t'as le côté fan service où tu vas retrouver des personnages, des mondes que tu connais. C'est à ce côté-là qui est sympa. Mais le jeu en lui-même, le gameplay est pas super intéressant, quoi.
Oui, c'est RPG basique.
C'est du basique. Le seul truc sympa que t'as, c'est que tu peux faire des associations de monstres un peu différentes. En fait, t'as un système de pyramide où tu peux empiler les monstres suivant la taille qu'ils font. Ça combine leurs pouvoirs, etc. Donc, ça, c'est sympa. Mais voilà, je pense que, enfin, de là à trouver ça intéressant sur PC, je pense que tu risques de t'ennuyer.
Oui, non, mais après, je veux dire, il y a tellement de jeux à faire que c'est
voilà,
utile à savoir.
Moi, voilà, PS Vita, c'était... Démo, hein. T'as une démo sur PS4 si tu veux jouer, parce que moi, j'y ai joué un petit peu, enfin, j'ai fait la démo, quoi. Les personnages que tu incarnes, en fait, c'est un frère et une sœur que tu peux avoir en mode chibi ou bien en mode classique.
En mode Kingdom Hearts, j'allais presque dire.
Oui. Exactement, et ça s'ajoute des avantages tactiques, on va dire, selon le mode que tu choisis. Plus le fait que tu peux... Enfin, moi, le seul truc que j'ai trouvé sympa, en fait, c'est un peu le concept à la Pokémon où tu captures des monstres
oui,
et puis
ça,
tu les utilises au combat. Mais sinon, à part ça, j'ai trouvé ça pas très intéressant quoi à jouer, c'est-à-dire que c'est très simple.
C'est pas un bon RPG, ça c'est
ouais,
sûr.
Voilà. Et puis même après, enfin, je veux dire, c'est juste vraiment du fanservice pour te vendre des peluches Cloud en mode chibi, du Tidus en mode chibi. Enfin, en termes de profondeur, tu vas pas y trouver
d'accord.
ton compte, je pense, à mon avis. Après, à voir sur la durée du jeu, peut-être que... Parce que moi, j'ai fait que la démo.
Non, c'est après, moi, j'ai fini le jeu.
Ouais.
C'est un jeu qui doit se finir en 10 ou 15 heures, un truc comme ça. T'as le fanservice qui joue, mais t'as pas d'évolution de gameplay réel au fil du jeu.
Donc à réserver vraiment aux fanatiques de Final Fantasy qui veulent un jeu fan service quoi.
Ouais, exactement.
Pour résumer.
Et moi franchement, enfin le comme t'as dit Ben, je trouve que c'est un truc qui s'adapterait parfaitement sur un smartphone en fait.
Ouais, ouais, smartphone. Ouais. Enfin moi je l'ai fait sur Vita, mais ça pourrait très bien être sur smartphone parce que c'est un Pokémon-like avec du fan service FF dedans. Hein.
Ok. Bon Ben, tu vas garder la parole et on va parler de e-suite.
Oui, donc je crois que vous en avez déjà parlé ici des histoires de localisation qui était pas très réussie avec quelques petits soucis.
Bon alors, previously on the Game Info, voilà. N'est-ce pas? La version de base sur PS4 était foireuse, enfin au niveau de la traduction. Le portage PC, on l'attendait toujours. Les fans ont commencé à gueuler et ont même envoyé un courrier écrit en japonais à Falcom. Bizarrement, ce courrier s'est retrouvé dans la presse japonaise. Mmh. Et bizarrement, après que ce courrier se soit retrouvé dans la presse japonaise, le président de NISA, qui est donc la boîte qui s'est occupée de la localisation, a fait ses plates excuses. Bon, de là à avoir un lien de cause à effet, hein, voilà. Et donc, on a la suite des événements, là.
Voilà. Donc, on attendait la version PC du jeu. Et ils ont décidé d'attendre que justement cette localisation soit un peu mieux faite, on va dire, pour sortir la version, on va dire, définitive. Et donc, il va falloir sûrement attendre début 2018 au mieux.
Ce qui, ma foi, pour être quelqu'un qui a regardé le jeu du coin, parce que je vais pas dire que je l'attendais, parce que pour moi il était trop cher, mais on va dire que je l'attendais en solde. Parce que j'aime beaucoup Is, mais de là à payer 60 balles pour un jeu qui est la gueule d'un jeu Vita, bon, faut pas déconner non plus, quoi. En fait, je pense que c'est pour le mieux. Pourquoi? Parce que juste, c'était pas possible de sortir ça en décembre, quoi. Enfin, oui. T'as vu tous les monstres qui vont sortir, là. Le jeu aurait juste pas sa place, que ce soit sur PC ou ailleurs. Donc, déjà, à la base, je trouvais que la date de sortie était foireuse, parce qu'il est sorti juste après le portage PC de IS7, qui était fait par Ixid, donc une autre boîte, hein. Ils sont sortis quasi en même temps, et moi, j'avais déjà pris IS7 sur GOG. Donc, ça me faisait chier qu'ils le sortent en même temps, celui-là, quoi. Pour le coup, moi, en fait, limite, ça m'arrange, quoi. Vous pouvez même le reporter jusqu'à février-mars, ça serait très bien.
C'est par rapport à ton planning, ça.
Ouais, c'est... En fait, voilà, je fais en fonction de mon planning. Mais dans tous les cas, je pense que le mois de janvier, c'est le mois idéal.
Non, mais après, même en dehors des histoires de planning, je trouve pas ça totalement bête d'attendre qu'il y ait une version qui soit propre pour sortir le jeu aussi. Ils ont fait une connerie déjà, ils l'ont remarqué, bon, enfin, ils l'ont remarqué, on leur a fait remarquer. Et voilà, ouais, là, ils se disent, au moins, la version PC, on va pas la sortir à moitié, on attend qu'il y ait des patchs qui soient faits, etc. Et on va essayer de sortir un truc un peu plus propre, parce que c'est vrai que l'expérience de jeu, quand tu commences et qu'elle est pas tout de suite comme tu le souhaites, ça peut faire fuir les joueurs aussi, donc, c'est pas incohérent.
Surtout qu'ils avaient déjà précisé que le portage PC était complètement foireux et qu'ils auraient besoin minimum jusqu'à décembre pour corriger les problèmes. Donc, avoir un mois de plus, ça sera pas de refus, à mon avis. Pour faire des bons tests, etc., qui vont bien, pour être sûr que, ok, tout est nickel pour la sortie PC, parce que, au jour d'aujourd'hui, quand on voit le nombre de jeux qui sortent sur Steam, hein, on a eu un tweet, notamment, cette semaine, qui évoquait bien ça, hein, sur les 60 jeux qui sont sortis j'allais dire cette semaine, mais si c'était...
Non, c'est par jour.
C'est par jour. Lequel voulez-vous? Ah, aucun. Ok, d'accord. Donc, on est à une époque où il faut que tes portages PC soient nickel. Que ce soit dit. Bon, ATH.
Ouais.
On va passer au jeu suivant, et le jeu suivant, c'est The Surge.
Exactement, donc je pense que tu vas en parler mieux que moi, mais c'est Focus qui annonce qu'ils ont vendu plus de 300 000 exemplaires du jeu The Surge, et que le jeu aura bien sûr une petite extension, et vu que tu vas jouer, j'attends d'avoir ton avis là-dessus.
Alors, l'extension, pourquoi elle m'intéresse? Parce que, en termes de direction artistique... Ça se passe dans un espèce de parc d'attractions, si vous voulez, et c'est beaucoup plus coloré, il y a beaucoup plus de verdure, quoi, on va dire. Et je trouve que c'est vraiment ce qui manquait au jeu de base, quoi. C'est-à-dire que le jeu de base, c'était à peu près tout le temps les mêmes environnements, le truc gris, déprimant, machin. Alors vous allez me dire, oui, Dark Souls, c'est gris, déprimant. Alors déjà, ce n'est pas que gris, il y a quand même... une énorme variété au niveau des environnements. Je veux dire, Irithyll of the Boreal Valley, voilà, enfin... C'est quand même fabuleux, quoi.
Ah non, mais c'est clair.
Et surtout, enfin voilà, là, c'était vraiment, quand je dis gris, c'est gris, comme on disait, tu sais, à l'époque où tous les FPS sortaient, et ils étaient soit gris, soit marron, quoi. Tu vois? Enfin, je trouvais que ça manquait de chaleur, un peu. Alors certes, ça va bien avec le côté cybernétique, mais avoir tout le jeu comme ça, On va dire que c'est assez pesant. Et donc, avoir un nouvel environnement, ma foi, pourquoi pas. Après, est-ce que je vais refaire le jeu pour ça? Non. Parce que pour que je me replonge dans un jeu comme ça, il faut vraiment que l'extension m'apporte, on va dire, la petite étincelle qui va me dire « Ah oui, j'ai envie d'y retourner ». Et le truc, c'est que The Surge, pour moi, c'est vraiment un jeu à gameplay, si tu veux. Et le gameplay, je l'ai tellement retourné qu'en fait, alors certes, tu vas me rajouter des armures, etc., mais j'ai pas la motivation d'y retourner. Alors qu'un Souls, par exemple, même si le gameplay, je l'ai retourné, il y a toujours, tu sais, le lore derrière, oui, quoi, oui, qui me poussait à revenir à chaque fois. The Surge, c'est pas un jeu à histoire, quoi, en fait. Enfin, il y a une histoire, mais c'est tellement anecdotique, si tu veux, je trouve, par rapport à un Souls. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais les Souls, il n'y a pas d'histoire. Non, je suis pas d'accord. Voilà. Je suis définitivement pas d'accord. Les Souls, il y a une histoire. Il faut la chercher. Ça, on est d'accord. Certes, il y a une bonne partie qui vient de l'extrapolation des fans.
Bien sûr.
Mais c'est aussi ça, le charme des Souls. Et surtout, quand tu regardes bien les détails, il n'y a rien qui se contredit, en fait. Et tu vois qu'il y a un tout cohérent derrière les Souls. The Surge, il y a aussi une histoire derrière, mais c'est de la SF lambda, quoi, on va dire. En tout cas, moi, c'est pas un jeu que je vais relancer parce que j'ai envie de voir son histoire. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas fait le jeu, c'est une très bonne nouvelle parce que pour le coup, ils pourront commencer avec un nouveau contenu. Surtout que apparemment, il y a une édition spéciale où il y aura le DLC qui sera inclus avec. Et mais voilà, une bonne nouvelle, mais personnellement, j'y replongerai pas, quoi. Mais en tout cas, moi, The Surge, je vous l'avais dit, bon, c'est pas le Souls-like le plus exceptionnel de l'année, mais il apporte vraiment quelque chose à la formule, hein, pour rappel. Pour moi, c'est un jeu qui vaut le coup. Pas exceptionnel, mais il vaut le coup. Bon, allez, Morren.
Oui.
Ça ne vous échappera pas qu'il y a eu un salon dont on ne dira pas le nom ici, qui a eu lieu cette semaine. Et il y a eu une conférence, n'est-ce pas, qui allait avec ce salon, et c'était la conférence PlayStation. Alors, en attendant le PlayStation Experience, on va dire, on a eu droit à une petite mise en bouche, et il y a eu quand même une, deux, trois petites nouveautés qui ont été annoncées.
Ouais, quand même, c'était relativement conséquent, hein. Il y avait un pré-show où il y a eu plein de trucs déjà, et puis ensuite, il y a eu une conférence en bonne et due forme avec aussi plein de trucs. Donc on va faire un petit peu le tour, notamment dans le pré-show, il y a eu l'annonce de deux suites, à savoir Spelunky 2 et Guacamelee 2. Je sais pas ce que vous en pensez de ces deux suites-là, est-ce que c'était vraiment nécessaire?
Bah ouais, moi c'est la question que je me pose parce que Spelunky 2, alors j'y ai trop peu joué pour avoir un avis définitif dessus, mais de ce que m'ont dit les fans, c'est le pinacle de la génération procédurale. Enfin, c'est un peu un chef-d'œuvre, quoi, si tu veux. Alors, est-ce qu'un chef-d'œuvre a besoin d'une suite? Voilà, je ne sais pas. Je laisse les fans le déterminer. Et Guacamelee 2, alors là pour moi c'est encore plus problématique parce que pour le coup c'est un Metroidvania. Alors, certes, c'est toujours Guacamelee, donc la direction artistique est toujours fabuleuse, ça a l'air toujours aussi bien. D'ailleurs, Guacamelee, jouez-y, c'est très bien. Là, une suite, je me dis, ouais, le truc, c'est qu'il y a plein de Metroidvania, en fait. Donc, qu'est-ce que t'as à me proposer de nouveau, non seulement par rapport à ton prédécesseur, mais aussi par rapport à tous les Metroidvania qui est sur le marché, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Samurai. You are a warrior. I can see that. You trained your whole life for this. And you have won battles that lesser men have called unwinnable, yes? But while you were sharpening your sword, do you know how I prepared for today? I learned. I know your language, your traditions, your beliefs, which villages to tame and which to burn. So I'll ask you once again, Samurai. Do you surrender?
Après, on a eu une nouveauté, c'est une annonce, hein, puisque on ne savait pas sur quoi t'as fait Sucker Punch depuis un moment. Sucker Punch, c'est Infamous. Et ils ont annoncé Ghost of Tsushima, qui est un jeu, a priori, où on incarne un samouraï dans le Japon médiéval. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, on n'a même pas une date de sortie, donc a priori, ça sera certainement pas en 2018. Mais en tout cas, une cinématique qui envoie du pâté. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
Je pense que ça peut être super intéressant, surtout que c'est Sucker Punch qui le commande. Après, à voir ce que ça va donner en termes de jeu, parce que moi, je trouve que les Infamous, c'est des bons jeux, mais pas exceptionnels. Ouais. Du coup, là, je suis très intéressé, en fait, surtout par la thématique abordée, vu que, voilà, ça parle de Japon et samouraï. Donc, forcément, c'est quelque chose où je mets ma petite pièce dessus, quoi. Après, vu que Sucker Punch, c'est quand même des Américains, traiter le Japon, je me dis que j'espère que ça va pas être trop cliché ou bien ce genre de choses-là.
Quoi, tu vois déjà Tom Cruise débarquer
C'est ça.
Non, mais... ou est-ce que ça sera pas trop prétexte aussi, juste pour faire un jeu d'action de
non,
ouf,
mais ce que je trouve bien, d'un côté, c'est que... Tu sais, maintenant, on nous bassine avec les héros de jeux vidéo qui se ressemblent tous, l'homme blanc, la trentaine, brun, beau gosse et tout ça. Et bah là, du coup, le fait qu'ils prennent un asiatique pour le rôle, et même enfin un japonais, quoi, je me dis qu'au moins, tu vois, ils misent pas toute leur communication en faisant un truc comme a pu le faire, par exemple, un Nioh, en mettant Geralt de Rive dans leur jeu. Là, ils mettent vraiment le personnage, en tout cas, qu'on a l'air d'incarner, ça a l'air d'être quand même un japonais.
Et surtout, c'est vraiment que des asiatiques, c'est-à-dire que le méchant, c'est un asiatique aussi, c'est un mongol, parce que ça parle de l'invasion des mongols du Japon, apparemment.
Exactement.
Alors rien que ça, ça éveille ma curiosité, quoi.
Bien sûr.
Bon, par contre, ça parle anglais.
Ah oui, non, mais il faut le rendre quand même le jeu un
ça,
peu.
Ça, par contre, oui, c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas poussé le vice jusqu'au bout en faisant un trailer où ça parlait japonais mongol.
Ah, mais il faut quand même qu'ils vendent le jeu aux actionnaires. Hein,
voilà, je pense que bon, on sait pourquoi ça a été fait comme ça, même.
Non, mais après, même en termes de gameplay, justification, je veux dire, moi, je sais que ça m'a toujours gêné dans GTA quand tu conduis, écouter les gens parler. Pour moi, c'est très compliqué. Tu peux pas lire les sous-titres parce que tu conduis. Enfin, à un moment donné, soit tu regardes la route, soit tu lis les sous-titres. Par exemple, les phases à cheval, s'il y en a, s'il faut lire les sous-titres à côté, enfin, je comprends d'un point de vue gameplay, c'est pas incohérent non plus, quoi.
Ouais.
Mais après aussi, enfin, moi je trouve ça bien parce que déjà, d'une, c'est une nouvelle licence.
C'est assez rare pour être noté.
C'est ça. Et puis, je veux dire, voilà, je trouve ça quand même couillu que des occidentaux se mettent à faire des jeux sur le Japon médiéval, quoi.
Ouais.
Si c'est traité de la bonne manière. Ça peut donner quelque chose de super intéressant, surtout qu'enfin, Sucker Punch, ils sont quand même assez bons en termes de rendu, tu sais, la sensation en main avec les pouvoirs, par exemple, que t'as dans Infamous, t'as quand même cette sensation un peu jouissif, et là, je me dis que si le gameplay est vraiment traité aux petits oignons, ça pourrait donner vraiment quelque chose de sympa, mais donc, c'est quelque chose où j'aimerais bien avoir plus d'informations, parce que là, le gameplay, on sait pas trop comment ça va jouer, du coup, c'est sûr que le jeu, il m'attire, quoi.
Alors, genre, rappelons que c'est un monde ouvert, en plus, donc un monde ouvert avec une nouvelle thématique, ça aussi, c'est important. Parce que, enfin, le Japon, c'est pas du tout un truc qui a été abordé dans le monde ouvert. Donc moi, voilà, curieux. Maintenant, faut voir du gameplay.
Ouais, voilà.
En tout cas, l'attendez pas tout de suite.
Ouais,
on entendra surtout parler d'ici le 3 prochain probablement.
Je mets une petite pièce sur le PlayStation Experience.
Ouais. Mais en tout cas, je le vois certainement pas sortir en 2018. Ensuite, donc ça pour le coup, c'est pour 2018. Et ça s'appelle Concrete Genie. C'est un jeu où on incarne un enfant qui est maltraité par les brutes de son village et qui trouve une échappatoire dans la peinture et le dessin. Tyran, il me semble que ça t'a beaucoup tapé dans l'œil.
Ah oui, non, mais le jeu, il m'a vendu du rêve. Déjà, c'est du dessin, donc je vous cache pas que je suis pas insensible à la chose. En plus de ça, artistiquement, c'est bluffant, c'est coloré, il y a des tons pastels. Quand il dessine, ça apparaît immédiatement à l'écran, enfin ça a l'air super fluide, technologiquement franchement je suis impressionné. En plus de ce qu'ils ont dit, ils essayent de faire quelque chose, enfin un système qui soit accessible, où on a vraiment l'impression que c'est nous qui créons des choses, mais on arrive à faire des choses correctes sans être un dieu du dessin. Donc vraiment, s'ils y arrivent, bravo à eux. Et puis surtout en termes de concept, moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que comme tu l'as précisé, on joue un gamin qui a l'air d'être persécuté par ses petits camarades et qui donc se réfugie dans le dessin. Et ces dessins, en fait, vont lui permettre, entre autres, de progresser dans la ville. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver face à des énigmes et y donner l'exemple, à un moment donné, d'un monstre électrique qui, en faisant passer de l'électricité dans un panneau de contrôle, ouvrait une porte, par exemple. Et donc ça, plus le fait que les fameux monstres en question ont l'air d'avoir une vie propre, Par exemple, quand il pleuvra, les monstres, ils sortiront un parapluie pour s'abriter. Si tu pars et que tu reviens, les monstres, ils se souviennent de toi, ils te disent bonjour, etc. Alors, je sais pas si c'est descrit ou s'il y a une vraie IA derrière, mais dans tous les cas, on s'y croit, voilà. Ça, plus le fait, enfin, pour terminer, que apparemment, les personnes qui te harcèlent ont chacune une histoire, que elles détruiront tes fresques par moment, donc il faudra les reconstruire, etc. Enfin bref, vraiment, moi, ce jeu, il m'a vendu rêve. Enfin, je suis un gamin quand je vois ce jeu. J'accroche totalement à la direction artistique. Et puis voilà, ce type de jeu est suffisamment rare sur les consoles de Microsoft et de Sony pour que quand j'en vois un, je sois suffisamment intrigué, quoi.
Et du coup, rapidement, à part ça, dans toutes ces annonces, est-ce qu'il y a d'autres jeux desquels vous auriez voulu parler? Vous avez, 5 minutes.
je pense que c'est moi qui va parler, alors.
Ouais, vas-y, dis-moi.
Moi, en fait, la plupart des trailers qui ont été montrés m'intéressent. Donc, je vais commencer déjà par Spider-Man. Spider-Man PS4 qui est fait par Insomniac. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour une fois, on met un peu plus l'accent sur le personnage principal en tant qu'être humain, c'est-à-dire Peter Parker. Du coup, il y aura même apparemment quelques phases jouables où on incarnera directement Peter Parker. Donc, s'ils essaient de faire un truc un peu à la Life is Strange, où tu sais, tu te balades dans ton établissement scolaire et tout ça, je me dis que ça pourrait être un très bon jeu s'ils mettent vraiment l'accent sur le côté humain de Spider-Man, parce que voilà, Spider-Man, c'est quand même à la base un lycéen qui a des grands pouvoirs et puis qui doit quand même gérer sa vie au quotidien, quoi, donc c'est pas toujours facile d'être Spider-Man pour lui. Et là, je me dis que ça pourrait être intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire là-dessus. C'est un de mes héros préférés avec Batman, on va dire, parce que je les trouve vraiment humains. Tu vois, dans la saga Arkham, moi, là, vraiment, la seule chose qui m'a manqué, c'est un peu qu'on n'ait pas un peu plus de Bruce Wayne, quoi. Et donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce Spider-Man.
Pas plus que
non,
ça.
Non, je pense que t'as tout dit là pour le coup. Mais c'est vrai que il y a plein de trucs intéressants. Et puis pour les fans de comics, il y a du coup plein de petits clins d'œil qui promettent de bonnes choses, quoi.
Après, je vais enchaîner sur God of War. Kratos joue à comment devenir un bon papa en montrant à son gosse comment on assassine tout un tas de monstres.
Bon, comme tous les précédents trailers, quoi, en gros.
Exactement. Mais là, ce qui est bien, c'est que dans celui-là, on a eu, en fait, du gameplay. Vraiment, le gamin, il a l'air d'avoir évolué par rapport à ce qu'on a vu avant. Là, il prend quand même un peu plus par l'action. Et ce qui est bien aussi, je trouve, que c'est que par rapport, en fait, au changement de caméra, ça change, en fait, tout par rapport au jeu. C'est-à-dire, la dimension du jeu n'est plus du tout la même par rapport aux anciens God of War, où avant, on avait des plans fixes qui rendaient le jeu très très beau sur la PS3, sur la PS2. Sauf que, si tu veux, en termes d'action, tu perdais un petit peu en lisibilité.
Ouais, mais moi, je la trouve beaucoup trop proche, la caméra.
Ça, c'est le problème, malheureusement, de tous les jeux comme ça. Enfin, Sony, ils utilisent souvent ce même système de caméra. Par exemple, dans Horizon Zero Dawn, on a aussi cette caméra qui est très proche du personnage principal.
Dans Hellblade aussi, je crois, ça a été un peu un reproche qui avait été fait. Bon, qui est pas un jeu Sony. Mais...
Parce que dans un Resident Evil 4, si tu veux, la caméra à l'épaule, c'était cohérent par rapport au fait où t'avais une arme à feu entre les mains. Mais là où justement, c'est un jeu au corps à corps, je trouve que c'est un petit peu trop proche aussi en termes de lisibilité, mais au moins... Ça permet d'avoir une dimension un peu plus spectaculaire.
En fait, ces caméras, ils pourraient utiliser parce que t'as vraiment l'impression d'être le personnage, en fait, quoi, si tu veux. Alors que si tu l'éloignes trop, c'est vrai que du coup, tu t'appropries moins le perso, je trouve.
Mais je trouve qu'il y a quand même un compromis entre les deux, quoi. Ils pourraient la reculer un petit peu, ça serait pas trop désagréable non plus pour la lisibilité du jeu, quoi. Après, je voudrais enchaîner donc sur Detroit Become Human. Et donc jeu de David Cage, donc un trailer plein d'émotions.
C'est l'instant troll.
Ok, c'est bon, t'as tout dit, on passe à autre chose.
Là, franchement, c'est pas vraiment un instant troll. C'est pour une fois un jeu Quantic Dream m'intéresse par rapport à la thématique qu'il aborde, en fait. Et je me dis que si David Cage a engagé un scénariste sur le jeu, ça pourrait être un
très bon
jeu.
Il faut espérer
que
c'est pas lui qui s'occupe du scénar, ouais.
Non, mais et en plus ça, enfin, moi je trouve que quand même la thématique quand même est assez chouette.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le côté tu incarnes le robot. Et du coup, si tu veux réagir, ça va poser problème parce qu'un robot, c'est pas censé violer les lois de la robotique, quoi. Donc,
par contre,
c'est intéressant.
Le fait que tu vois justement, il y a ce système d'émotion, je trouve que c'est un petit peu entre guillemets, t'as vu là, il y a l'émotion, vas-y, réagis, quoi. On dirait que c'était balancé un peu comme ça à la gueule, en mode, voilà, c'est le moment où tu dois pleurer ou tu es le moment où tu dois rire. Enfin, je trouve ça un petit peu maladroit comment c'est interprété. Enfin, en tout cas, de ce que j'en ai vu dans le jeu. Mais c'est vrai que la thématique m'intéresse. Mais par contre, je me demande pourquoi il est pas resté sur le système de choix où bien avant chaque action avait une conséquence. Et pourquoi maintenant, en fait, on a la possibilité de revenir dans le temps. Je trouve que ça peut très vite casser le jeu.
Ils ont pompé ça sur Life is Strange, en fait. Hein.
Ouais, mais dans Life is Strange, c'était expliqué par rapport au pouvoir de l'héroïne.
Oui, mais en fait, Life is Strange, les pouvoirs de l'héroïne, c'était un prétexte. En fait, c'est pour te permettre de voir les conséquences de tes choix et t'éviter de refaire tout le jeu, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont frustrés par rapport à ce système de choix. Mais moi, je trouve ça un peu dommage, en fait. Ça fait un peu, tu sais, alors je regarde, est-ce que ce choix me convient?
Ouais,
oui,
je me suis raté,
non.
Je refais.
Ouais, c'est ça,
et
ouais.
En fait, le truc, c'est que je trouve que par rapport à ce qu'essaye de faire David Cage, c'est-à-dire, bah, de l'émotion, des fois, c'est bien de faire un choix et de se tromper.
Et de le regretter après.
Bah ouais. Et de le regretter. Et c'est con, en fait,
bah,
par
c'est
rapport
surtout,
à ce qu'il
ça va t'amener
faire,
peut-être d'autres phases dans le jeu auxquelles tu t'y attendais pas forcément parce que tu t'es trompé à un instant T.
C'est ça.
Et la rejouabilité est énorme, du coup.
Mais en tout cas, enfin, on peut reconnaître à David Cage, au moins, de... Enfin, David de Grupula, plutôt, de pouvoir nous mettre un type d'expérience qu'on n'a pas trop ailleurs. Et puis, les thématiques abordées, c'est quand même quelque chose d'assez original. Et ça, quand même, c'est assez appréciable dans le triple A d'aujourd'hui, on va dire.
Ah bah c'est sûr que dans le climat actuel où on annule tout ce qui est jeu solo pour faire du jeu à service, c'est presque rafraîchissant d'avoir un rappel que Detroit Become Human arrivera un jour, quoi.
Bien sûr.
A priori, ça arrive pour printemps 2018, d'ailleurs.
Et pour terminer, je voudrais parler de The Last of Us Part 2. Trailer quand même assez dur à regarder, je trouve. Ce qui a l'air d'être cool dans le trailer, quand même, c'est que c'est pas les personnages principaux qu'on a l'habitude de jouer dans la série.
A priori, c'est un nouveau personnage jouable, hein, si j'ai bien compris.
Ouais, moi aussi, donc ça me laisse encore plus d'interrogations sur le jeu. Plus le fait que là, ils ont vraiment l'air d'avoir passé un câble en niveau de violence et de cruauté de l'univers, que je me dis que ça pourrait être super intéressant de voir comment et montrer la folie maintenant, en fait.
D'ailleurs, Maron, je crois que ça t'a dérangé, toi, par contre.
Ouais, c'est ce qu'on appelle maintenant le torture porn. C'est-à-dire montrer de la torture de plus en plus violente et que ça provoque quelque chose chez toi. Moi, je trouve en fait que c'est la méthode de provoquer une émotion la plus basique, en fait. C'est-à-dire que on te montre de la violence qui va super, super loin et t'es obligé de réagir de façon négative, tu vois. Et ça, moi, ça me gêne un petit peu. J'espère que le jeu poussera pas trop loin, trop souvent.
Bon, en tout cas, que ça soit pas fait de manière extrêmement grossière, quoi.
Ouais, il y a moyen que ça puisse me gêner, parce que pour le coup, The Last of Us était un poil plus soft de ce point de vue-là, et puis moi, c'est pas pour cette violence-là que j'ai envie de jouer à The Last of Us 2. Quand j'avais joué à The Last of Us, j'avais fait plein de parallèles avec le film, enfin le film et le bouquin La Route, de Cormac McCarthy, qui sont excellents. Et j'espère que ça va pas trop se perdre au profit de scènes hyper impactantes, parce que La Route, c'est un road trip, mais qui est pas tout le temps dans le truc dans ta face, en fait. Et c'est vraiment une ambiance, un malaise qui est très diffus, en
fait.
Ouais,
c'est une ambiance, c'est vraiment ça. T'as une ambiance tout le long, tu sais pas ce qui peut se passer, mais ça va jamais trop loin. Ou très
peu. Et du coup, j'ai peur que dans The Last of Us 2, il se retrouve un petit peu acculé à essayer de faire plus, et que ça passe par ça, notamment.
Dans le premier jeu, t'avais quand même des scènes un peu comme ça, entre guillemets, choquantes, quoi, où t'avais des trucs assez horribles qui se passaient. The Last of Us jonglait bien, justement, ces différentes ambiances, où l'ambiance, tu sais, bah, très calme, comme tu l'as décrit, comme La Route, et puis, aussi, le fait que, à certains moments du titre, il y avait les scènes qui étaient brutales, et montraient ça de manière assez crue, mais c'était en même temps, c'est l'univers du jeu qui voulait ça, quoi.
En fait, je pense que, à l'époque où, dans le premier, en fait, l'adversité, c'était vraiment les infectés. Là, je pense que The Last of Us 2, ça va plutôt explorer l'adversité, mais du côté humain. Et c'est probablement ça, du coup, qui me fait plus réagir par rapport à la violence, en fait. Mais du coup, à voir, je pense que c'est une scène qui a été montrée comme ça pour impacter les gens sans trop spoiler. Je vais choisir de leur faire confiance et de me dire que ça va pas être ça tout le long du jeu, parce que sinon, ça serait pas très intelligent de leur part. Et ils ont quand même déjà montré Naughty Dog qu'ils étaient... relativement intelligent dans leur jeu.
Ok. Bon, messieurs, on va enchaîner.
J'ai juste une rapide question pour vous. Shadow of Colossus, est-ce que ça peut valoir le coup, parce que je ne l'ai jamais fait?
Alors moi, mon problème avec cette version de Shadow of the Colossus, c'est que je n'accroche pas du tout à la nouvelle direction artistique.
Ouais.
Mais après, c'est très subjectif, hein. Je trouve que ça perd du charme de l'original. Maintenant, si tu l'as pas fait, honnêtement, je pense que ça peut valoir le coup, parce que... l'original, quand même, faisait cracher ses tripes à la PS2.
Mmh.
Je crois que la version PS3 avait des problèmes techniques,
ouais,
il me semble. Enfin, c'était pas super fluide, de ce que j'avais compris. Donc, ça peut valoir le coup si c'est bien fait, quoi.
Ok.
Et pourquoi je te le conseillerais, c'est que, en fait, c'est un jeu qui a une histoire, mais vraiment assez forte, sans vraiment parler. Mais ce que ça te raconte, c'est juste incroyable, quoi. Et c'est pour ça que, enfin, Fumetsu Ueda, Enfin, c'est des œuvres comme assez cultes, malheureusement, qui sont pas très bien vendues. Mais si t'as l'occasion de faire Shadow of the Colossus, juste fais-le. C'est quand même une expérience qu'il faut faire, je trouve, pour quelqu'un qui aime bien les jeux vidéo, quoi.
Ok.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne.
Ouais.
On va évoquer rapidement la dernière fantasy d'Activision en ce qui concerne les lootbox. On va pas s'étendre là-dessus parce que honnêtement, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué en long, en large et en travers dans les derniers numéros. Mais quand même, vous allez voir, c'est suffisamment croustillant, n'est-ce pas, pour qu'on s'attarde 2 minutes dessus. Donc, ça ne vous aura pas échappé, Call of Duty World War II est disponible dans le commerce. Et il se trouve que dans le dernier épisode de la franchise, Activision a mis en place un système de hub où les joueurs peuvent circuler avec leur avatar sur les plages de Normandie. Donc évidemment, comme tout bon hub qui se respecte, vous allez pouvoir discuter avec les autres joueurs, préparer votre partie, etc. Mais surtout, et c'est ça le plus important, vous allez pouvoir, je vous donne dans le mille, acheter des loot box. Des loot box qui seront largués spectaculairement, n'est-ce pas, par hélicoptère sur les plages de Normandie, que vous allez pouvoir ouvrir devant les autres joueurs, suite à quoi le loot va se matérialiser sous forme de carte devant vos yeux ébahis, et surtout devant les yeux des autres joueurs.
Et une fois que vous faites une bonne partie, que vous avez utilisé la nouvelle arme que vous venez d'acquérir juste avant, ça fait un peu écho à ce qu'on avait dit, vous savez, sur la manipulation mentale d'Activision, quoi.
C'est ça. Donc, bon, rien à ajouter, si ce n'est que ça fait peur. Par contre, mon cher Ben, il y a quand même une bonne nouvelle sur le front des lootbox, n'est-ce pas? Il se trouve que, suite aux polémiques qui ont émaillé le net ces derniers temps, un certain nombre de développeurs ont commencé à réfléchir sur la question des lootbox, et que parmi eux, il y en a au moins un qui s'est dit que c'est peut-être pas terrible finalement si on cherchait une autre solution.
Exactement, et c'est Phoenix Lab avec son jeu Dauntless, qui lui a décidé...
Qui est un Monster Hunter-like, hein, je précise.
Exactement, ouais. Qui lui a décidé au contraire de faire marche arrière avec ce système de payer pour avoir des choses aléatoires. Donc c'est un jeu qui est en bêta. Ils avaient fait le test au départ, voilà, de un peu des lootbox classiques actuels. Et là, ils ont fait marche arrière en disant que ils préféraient passer un système où les joueurs peuvent choisir de payer, mais s'ils payent, ils choisissent pourquoi. Comme sur Path of Exile ou d'autres jeux comme ça, il y a plus ce phénomène d'aléatoire qui rentre en jeu. Mmh. Donc bon, après. Qu'on puisse payer dans les jeux, ça c'est un choix qu'on peut faire, mais voilà, comme on l'a dit moult fois ici, payer pour de l'aléatoire, c'est vraiment n'importe quoi.
Oui, mais le problème c'est le casino, quoi.
Enfin, voilà.
Tout simplement. Donc après, moi franchement, je trouve ça bien. Pourquoi j'ai voulu mettre cette news en avant aussi cette semaine? Parce que je trouve qu'on parle suffisamment des gens qui font de la merde, mais ça serait bien de parler des gens qui font des choses bien aussi de temps
c'est
en
clair.
Temps. Donc bravo l'équipe de Dauntless.
Eux c'est vraiment tout bénef parce que en plus de faire un truc bien pour les joueurs, ils se font une pub géniale avec ça quoi.
Voilà. Bon, une mauvaise nouvelle cette semaine, Morden.
J'ai l'impression qu'il y en a tellement.
Parce qu'on va parler de Blizzard tout à l'heure et on va parler de Runic Games, donc qui sont les anciens de Blizzard North, qui avaient sorti entre autres Torchlight 2, qui avait sorti aussi récemment un certain hub qui était un Zelda-like donc.
Ouais. En fait, on apprend que le studio va fermer, enfin a fermé d'ailleurs. C'est une décision de l'éditeur chinois Perfect World. C'est assez croustillant, hein, un éditeur qui s'appelle Un Monde Parfait. Et finalement, ce monde parfait, c'est un monde où on ferme Runic Games
avec plein de jeux à service.
Et voilà, leur objectif en fait, c'est de continuer à faire des jeux à service. Et donc, voilà, on jette ceux qui n'en font pas, à savoir les développeurs de Torchlight et Hub. Et cette nouvelle s'associe également au fait qu'il y a eu beaucoup de licenciements dans un autre studio de Perfect World qui s'appelle Gigantic. Et voilà, encore une fois, la justification, c'est parce que on fait du jeu à service et ça sert à rien de faire autre chose. Du coup, Runic, c'est terminé.
Soit dit en passant, Gigantic, c'était du jeu à service. Hein, je veux dire, c'était un MOBA. Donc,
d'accord.
Mais le truc, c'est bizarre quand même. Ils ont un jeu à service qui marche pas, tu vois. Et ils se disent, on va faire que du jeu à service.
Ouais.
Vous voyez un peu, hein, c'est bizarre ces gens-là.
C'est débilou.
T'as une boîte qui essaye de surfer sur le phénomène du MOBA, un type de jeu à service parmi tant d'autres, qui se rend compte que ça marche pas, qu'il y a un autre studio qui fait d'autres jeux. Alors peut-être que j'imagine que Up n'a pas marché, hein, c'est possible.
Certainement. Oui.
Mais qui, au lieu, tu vois, d'essayer de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, se dit ah oh bah non, maintenant on va faire que du jeu à service. C'est une très bonne ouais. idée. D'ailleurs, on a ce jeu à service qui a pas marché là, mais c'est pas grave, hein, on va continuer ouais. quand même. Enfin bref, non mais voilà. C'est... Et surtout, moi, ce que je trouve très curieux, c'est le raisonnement qui consiste à dire on ferme un studio. Et puis c'est tout quoi, on cherche même pas à discuter, à machiner, on ferme, voilà, c'est tout, point.
Moi, il y a un truc qui m'emmerde dans cette histoire, c'est que ils vont continuer bien sûr à vendre les jeux faits par Unic, donc Torchlight, Torchlight 2 et Hob. Et moi, Hob, c'est un jeu qui me faisait pas mal d'œil, alors j'avais pas pu investir tout de suite, mais j'avais vraiment envie de l'acheter.
Bah surtout que les bons Zelda like sur PC, c'est ça, c'est rare, hein.
Et le jour où j'aurais envie de l'acheter, en fait, cette thune, elle va pas du tout aller à Runic, ne serait-ce que en un pourcentage. Tout va aller à Perfect World et ça m'emmerde, en fait, de leur donner de la thune. Alors qu'en fait,
ils ont traité leurs employés comme de la merde.
C'est ça. Et franchement, moi, ça me gaffe, quoi.
Et par contre, ce que l'éditeur ne, je pense, enfin, la plupart des éditeurs ne semblent pas comprendre, c'est que, le fait que tout le monde veut sortir son jeu avec une durée de vie assez longue pour te faire raquer et te faire revenir plusieurs fois la caisse, mais le problème c'est que les gens vont pas jouer à tous leurs jeux et puis ils vont pas payer sur tous leurs jeux. C'est-à-dire qu'il y a un jeu, ils vont tester pendant une heure ou deux heures, puis après ils vont dire ah, c'est de la merde, tu vois, sans y être investi vraiment dedans. Et puis ils vont dire bah je retourne sur mon jeu précédent quoi. Et puis et ouais. c'est fini. C'est-à-dire les gens vont pas chercher à aller plus loin que ce qu'ils ont déjà quoi.
C'est ça. Bon, allez, et on va terminer, mon cher Ben, sur StarCraft 2.
Eh oui, on vient d'apprendre que StarCraft 2 allait passer free-to-play. Ils vont passer free-to-play jusqu'à Wings of Liberty pour ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui ont Wings of Liberty auront droit à la campagne d'après, dont j'ai zappé le nom parce que je ne m'y connais pas du tout.
Heart of the Swarm.
Voilà. Le jeu va sortir d'ici la fin de l'année, donc 14 novembre a priori.
Ouais.
Donc voilà, après moi je suis pas un spécialiste de StarCraft 2. Ceux qui ont joué, est-ce que pour vous c'est une bonne chose, c'est une bonne idée?
Ça c'est la question pour moi et Mordren.
Plutôt, ouais.
Le mode multijoueur gratuit, ça c'était un peu le passage obligatoire, oui, oui. j'ai envie de dire. Il était temps. It's about time, n'est-ce pas?
Clairement.
Par contre, Mordren, je sais pas pour toi, mais moi pour le solo, je suis un peu salé parce que, oui. en fait, j'ai l'impression de me faire arnaquer, quoi. C'est peut-être injuste, mais en fait, j'ai l'impression que plus t'as été fidèle, moins t'es récompensé. C'est très curieux comme sensation.
Ouais, parce que comme le disait très bien Ben, en fait, la campagne du 1, donc la campagne Terran, est gratos pour tout le monde. Donc Wings of Liberty. Si jamais vous avez fait partie des early adopters, vous avez le droit à la campagne Zerg qui est Heart of the Swarm. Par contre, ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'il y a quand même 4 campagnes solo au total. Il y a Wings of Liberty, Heart of the Swarm, il y a Legacy of the Void, et derrière, il y a eu un pack de DLC qui s'appelle Nova Corps Ops. Le problème, c'est que pour un joueur comme Tyran qui a Wings of Liberty et Heart of the Swarm, il n'y a absolument rien qui est donné. Et pour un joueur comme moi qui a Wings of Liberty, Heart of the Swarm et Legacy of the Void, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que on s'est investi comme des oufs là-dedans. Et
Surtout qu'on a été un peu des vaches à lait, parce que très sincèrement, je suis pas sûr que les campagnes valaient leur prix. Moi, c'est pour ça que j'ai hésité à prendre Legacy of the Void, parce que je trouvais que ça commençait à faire un peu cher, quoi.
C'est pas faux.
À force.
Ouais.
Et vous avez déjà payé
du coup.
Non mais très clairement, on a été cons.
Bizarre vous remercie de votre générosité et puis vous attendra sur StarCraft 4.
Voilà.
Non mais je trouve que c'est un peu gonflé de leur part de pas du tout évoquer ce genre de joueur là en fait.
Non mais soit dit en passant, moi je réclame même pas qu'ils me donnent quelque chose. Ce que je dis c'est que je vois pas pourquoi on offre les campagnes solo en fait.
Oui, c'est ça.
Que le multijoueur soit gratuit, pourquoi
c'est
pas
logique.
Et pourquoi on offre les campagnes solo? À chaque fois je me dis mais vous rendez compte du message que vous envoyez à vos clients qui ont acheté le jeu avant, quoi, en fait. Enfin, tu me diras, c'est comme quand t'es chez un opérateur mobile et que, en fait, plus t'es ancien, moins t'as d'avantages, quoi. Mais c'est un raisonnement que j'ai toujours trouvé très curieux, mais bon, voilà.
Et par contre... Oui, il faut évoquer le multijoueur, parce que faut bien voir que StarCraft 2, c'est un jeu qui est sinistré, entre guillemets, dans le monde du multijoueur, parce que au final...
De l'e-sport, surtout.
Voilà, le truc, c'est que la scène e-sportive de StarCraft 2 a complètement été supplanté par beaucoup d'autres jeux, et je pense que le rendre free to play c'était le dernier move qu'il pouvait faire Blizzard pour tenter de revivifier cette
Mais tu penses pas que c'est trop tard?
Moi je pense que c'est trop tard en fait. J'en parlais avec un pote qui lui suit beaucoup la scène e-sportive et pour le coup on regarde pas du tout StarCraft 2 et il me dit qu'en fait les seuls jeux qui marchent en réalité en e-sport c'est des jeux à team et c'est pas faux en fait. Le problème c'est que moi d'un point de vue de joueur de StarCraft 2 je trouve que l'e-sport StarCraft 2 est hyper impressionnant et il génère pas mal d'émotions mais effectivement pour quelqu'un qui est habitué aux jeux en team, StarCraft 2 faut s'y mettre. Vraiment pour commencer à comprendre
pourquoi les mecs en face c'est des psychopathes quoi.
C'est ça, c'est un jargon qui est déjà assez bizarre et finalement quand t'es joueur de StarCraft 2 lambda on va dire, il y a plein de trucs que les commentateurs e-sportifs vont dire que tu vas pas comprendre tout de suite.
Bah ça plus le fait que j'ai l'impression que Blizzard a un peu tué la scène e-sports parce que je me rappelle à une époque tu sais il y avait des tournois qui étaient organisés ouais. etc. Puis j'ai l'impression qu'à un moment donné ils ont essayé de reprendre ça en main. Oui. Et en fait, ça a complètement tué la scène. Par exemple, ouais. Les événements qui étaient organisés en France par Pompétude, ils ont disparu parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'organiser ça, quoi. Ouais. Ils n'avaient pas l'accord de Blizzard, en fait.
Et puis d'ailleurs, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où était sorti StarCraft 2 sur PC, il y avait les championnats d'e-sport qui étaient à l'honneur. Je me rappelle que toi et Mordren, vous suiviez ça. Directement et ouais. Du coup enfin une fois j'avais tenté comme ça par curiosité de regarder un stream avec vous mais c'était incompréhensible ce qui s'est passé devant moi quoi
c'était, ouais, c'est ça
c'était limite de la physique quantique avec enfin je comprenais pas
c'est un vrai problème que vont avoir les jeux de stratégie en fait c'est que c'est le commun des mortels en fait tu les mets devant ça ils vont jamais comprendre en fait.
Non mais déjà le genre il est mort de toute façon donc ouais. Le problème est réglé mais de toute façon le jeu stratégie c'est pas un genre qui se prête à l'e-sport c'est beaucoup c'est trop
non mais même le jargon utilisé
complexe quoi
c'est incompréhensible.
Bah après je pense pas que ce soit un vrai problème parce que sur LoL t'as du jargon aussi et
oui
ça empêche pas le jeu d'être ultra populaire.
Ouais mais le jeu de base est populaire.
Oui non mais c'est ça du moment que le jeu est populaire franchement qu'il y ait du jargon ou pas je veux dire
c'est pas grave
c'est mais pas vraiment un souci
mais
quoi.
Par exemple je suis pas super fort au jeu de combat. Et quand je regarde un stream ou bien par exemple des tournois comme l'Evo et tout ça, je comprends directement ce qui se passe. Si je regarde un stream sur Overwatch en e-sport, j'ai pas besoin de comprendre ce que le mec il raconte pour comprendre ce qui se passe à l'écran. Le mec il vient, il shoot sur la personne, hop, il déploie une tourelle, hop, il se passe ci, il se passe ça, il active un bouclier. Donc si tu veux, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Mais là, dans StarCraft, le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en quelques secondes. Genre le mec il construit une base en même temps il envoie des troupes là-bas et puis il fait ci il fait ça enfin il y a 4000 commandes à la seconde et si tu veux comme c'est ultra simplifié si tu connais pas le genre c'est assez compliqué alors ouais. Par exemple Overwatch
c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'actions exécutées alors que les jeux à team chacun contrôle son perso
c'est
et
ça.
C'est beaucoup plus facile de résumer en gros ce qui se passe que sur un jeu comme StarCraft où t'as une cinquantaine d'unités à l'écran et le mec il va à droite à gauche
voilà c'est, et je pense que voilà. Je pense que par rapport à ça, enfin, que StarCraft 2, justement, veut se lancer sur la scène e-sportive, c'est bien pour eux qu'ils essaient de ne pas abandonner le projet. Surtout, notamment, quand tu sais que, par exemple, en Corée, qui était la terre sacrée de StarCraft premier du nom, les pros retournent sur le premier StarCraft, en fait, et délaissent le deuxième. Et ça, c'est un petit peu embêtant sur un jeu qui est sorti plus récemment que le premier, qui a maintenant, je sais pas, qui doit avoir une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, peut-être.
C'est 97, je crois, StarCraft.
Voilà, donc...
C'est pour ça qu'ils avaient sorti le remaster, d'ailleurs.
Voilà. Quelque chose à ajouter, Mandren, ou?
Non, ben, en fait, moi, je continue à regarder de temps en temps, des streams de StarCraft 2, de compétition, parce que je trouve ça toujours, ouf, en fait. Je sais que c'est un plaisir qui m'est propre, et finalement qui mobilise assez peu de gens. Donc, je m'attends un jour à ce que, ça disparaisse tout simplement, et bon, ça, ce jour-là, je serai relativement triste, mais, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir se rendre à l'évidence.
Oui, ça fait un moment que t'es préparé quand même, je pense.
Ouh, clairement, ouais.
Bon, allez, alors, une petite précision avant de clôturer ce podcast. Il se trouve que la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, donc il n'y aura pas de podcast. Voilà, j'ai décidé.
Ah, bravo.
J'ai décidé de profiter mon week-end, donc rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, profitez bien, ciao à tous.
Salut.
Salut tout le monde.
Ciao.